Alors, bonne année. Nous recommençons avec notre série de classes sur ce sujet, ce fil conducteur, donc des raisons de croire. Et juste pour rappel, nous faisons les classes basées sur certains des chapitres qui se trouvent dans ce livre de Timothy Keller, La raison est pour Dieu. Et vous n'êtes pas du tout obligé à le faire et les classes sont faites pour fonctionner sans avoir lu le livre. Mais si vous avez l'occasion de vous procurer et de lire le livre, c'est quand même quelque chose qui peut être édifiant dans votre réflexion au sujet de la foi et aussi pour vous préparer aux classes. Et donc, j'avais envoyé pendant la semaine aussi quelques pages, dont deux chapitres à lire. Dans le chapitre qui est, je vais juste regarder le chapitre 7, donc vous ne pouvez pas prendre la Bible au pied de la lettre. Et on va regarder donc dans la classe où sont les liens, mais je trouve que Keller, il aborde des très bons sujets. Dans ma dernière classe sur ce thème, j'avais terminé en parlant des prétentions messianiques et divines de Jésus. Comment par ses actes et par ses paroles, Jésus se présente comme quelqu'un d'extraordinaire et comment il nous force à prendre position. Et j'avais fini avec cette citation donc, de C.S. Lewis, un penseur et un auteur anglais qui avait écrit ceci dans son livre « Les fondements du christianisme ». Il a dit « Un homme qui ne serait qu'un homme et qui tiendrait les propos que tenait Jésus ne serait pas un grand professeur de morale. Ce serait soit un fou, tel l'individu affirmant qu'il est un œuf poché, soit le démon des enfers. Mais il vous faut choisir. Ou bien cet homme était et reste le Fils de Dieu, ou bien il ne fut rien d'autre qu'un aliéné ou pire encore. Vous pouvez l'enfermer comme un fou, lui cracher au visage et le tuer comme un démon, ou au contraire vous jeter à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais ne vous laissez pas entraîner à favoriser ce non-sens, à savoir qu'il est un grand maître issu de l'humanité. Il ne vous a pas laissé cette possibilité. Il n'a pas eu cette intention. » Lewis propose ici ce qu'on appelle par la suite le trilemme, c'est-à-dire, c'est comme un dilemme, c'est un choix entre deux choses. Il dit, il y a le choix entre trois choses. Quand on lit le récit de Jésus, nous sommes confrontés à quelqu'un qui est soit menteur, parce qu'il prétend avoir les prérogatives divines, soit malade, un malade mental, parce qu'il pense être Dieu, soit le Messie, n'est-ce pas? Et donc, c'est le trilemme des trois M. C'est assez facile à s'en souvenir. Et je trouve que c'est un argument de poids, d'accord? De dire, voici ce à quoi nous sommes confrontés. Nous aimons Jésus pour le bien qu'il fait, pour l'enseignement moral qu'il apporte, mais il nous force à faire face à ses prétentions personnelles au sujet de son identité divine, de son autorité dans notre vie. Et donc, confronté à ce choix, on cherche des réponses, surtout dans le monde non-croyant, qui forcent de ne pas décider entre ces trois options. Et donc, une réponse qui est donnée parfois à ce trilemme est celui-ci. C'est que le Jésus des évangiles ne serait ni menteur, ni malade, ni le Messie, mais simplement un mythe. Simplement un mythe. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Ce n'est pas l'idée qui, en fait, n'est pas très acceptée dans le monde éduqué, que Jésus n'a jamais existé, d'accord, qu'il est une légende inventée par l'Église. Mais plutôt cette notion que Jésus était un enseignant, un grand enseignant moral et philosophique et de sagesse issue de l'humanité, et que dans les décennies et les siècles qui suivaient, l'Église a créé un Jésus Messie et un Jésus Fils de Dieu qui n'a jamais existé. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré cette manière de penser ou cela, mais c'est une idée, si on fait attention, qu'on retrouve très souvent dans les médias populaires, les magazines, les journaux, dans les films, dans les documentaires, à la radio, même parfois, ou assez souvent, de la part de professeurs de religion, de théologie, on entendra cette idée. Bon, Jésus, le Jésus historique, le Jésus qui a vraiment vécu, n'a jamais prétendu être le Fils de Dieu, être divin, être le Messie. C'est une invention de l'Église qui a caché la réalité historique au sujet de Jésus. Dans son livre « La raison est pour Dieu », Keller parle de son expérience avec cet enseignement. Lorsqu'il a commencé ses études en théologie, il dit ceci dans son livre. « Les spécialistes dont je lisais les ouvrages décrivaient le Jésus authentique, historique, sous les traits d'un maître charismatique qui, en enseignant la justice et la sagesse, s'était attiré les foudres de ses opposants et avait été exécuté. Après sa mort, disent-ils, différents points de vue sur sa personne avaient vu le jour parmi ses partisans. » Et il en énumère quelques-uns et il conclut « Après une lutte de pouvoir, le clan du Jésus divin avait gagné et avait élaboré des textes soutenant son point de vue. » Bon, quelle est l'idée là? Comme il décrit, un Jésus purement humain, grand enseignant, peut-être réformateur moral ou religieux, dont les disciples, après sa mort, ont changé le message et ont supprimé les autres messages pour nous donner un Jésus divin qui n'aurait jamais existé. Et l'enjeu pour nous est grand, n'est-ce pas? Si le témoignage que nous avons dans les évangiles à propos de Jésus n'est pas fiable, ne correspond pas à ce qui s'est vraiment passé, à la vraie personne de Jésus, alors nous n'avons pas de position à prendre vis-à-vis de la personne de Jésus, n'est-ce pas? Si Jésus n'a jamais prétendu être le Fils de Dieu, nous n'avons pas à prendre position par rapport à lui. S'il ne cherchait pas à être reconnu comme Messie, alors qu'est-ce que cela change pour nous? Nous pouvons prendre ce que nous aimons dans son enseignement, ignorer le reste, et tout va bien. Et c'est donc une pensée qui est très attirante dans notre culture aujourd'hui, qui aime justement faire un choix, une sélection de pensées religieuses ou morales ou philosophiques et faire ce qui les arrange. Et ceci permet d'éviter le trilemme, cette confrontation à laquelle Jésus, ce choix à laquelle Jésus donc nous confronte. Or, le sujet est important parce que nous croyons, et je pense avec raison, que les évangiles ne sont pas juste des histoires de foi, des histoires religieuses à prendre ou à laisser, mais le reflet historique et fiable de la vraie personne de Jésus. Je vais citer plusieurs fois, c'est un auteur anglais qui s'appelle N.T. Wright, et je le cite beaucoup parce que c'est un historien du christianisme du premier siècle, c'est-à-dire du christianisme de temps de Jésus, de Paul et de la suite. Et c'est un des auteurs et un des chercheurs les plus reconnus dans le monde académique et populaire, et pas juste parmi les croyants, mais parmi les non-croyants. Donc quand il écrit quelque chose, ça a du poids, et c'est quelqu'un qui a passé sa vie entière à étudier la question du Jésus historique. Et il dit ceci dans son livre « Chrétien, tout simplement ». Pour étudier Jésus, la question clé est celle-ci. Peut-on se fier aux évangiles? Si on veut parler du Jésus, de l'homme Jésus, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait, nous devons répondre à la question, est-ce qu'on peut se fier aux évangiles? Et donc, avec le peu de temps que j'ai ce matin, j'aimerais parler de cette question. Est-ce qu'on peut se fier aux évangiles? Et on va le faire avec une perspective seulement, c'est-à-dire cette question de est-ce que Jésus prétendait vraiment être Messie et divin? D'accord, c'est deux choses. On peut parler de la résurrection, de ces autres choses, mais on va se limiter à cette question. Et je vais proposer 5 pistes pour réfléchir à cette question au niveau de notre foi, comment affermir notre foi, mais aussi comment partager avec d'autres. Et j'ai vu des études qui sont très bien, où ils parlent de 12 réponses ou 12 points différents qu'on peut donner, ou une quinzaine, et ils sont tous très bien, mais à cause des limites de temps, et on ne veut pas trop bourrer d'informations non plus, on va se limiter à 5. Mais je crois que ce sont des choses assez pratiques pour nous. Et j'aimerais partager avec vous à la fin de la classe, aussi avant le moment de questions, quelques ouvrages que vous pouvez consulter en français à lire, qui vont parler de ce sujet beaucoup plus en détail. Si je ne vais pas dans les détails, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas là, mais simplement parce que c'est une classe un peu d'introduction et générale. Mais j'aimerais partager donc ces choses avec vous. La perspective de cette classe, c'est nous voulons regarder ces questions d'apologétique dans le contexte d'un partage de foi avec les autres. D'accord, c'est pas juste d'un point de vue académique ou intellectuel, mais dans nos conversations. Et donc, mon premier point, ma première réponse à cette déclaration « Jésus n'a jamais prétendu être le Fils de Dieu », c'est simplement un encouragement pour vous d'avoir une bonne connaissance et de développer une bonne connaissance des évangiles, d'accord, de ce que Matthieu, Marc, Luc et Jean disent vraiment, et de les lire et de les relire et de les connaître. Et avec cela aussi, d'étudier et de lire divers ouvrages pour connaître le monde des évangiles, le monde du Nouveau Testament. D'avoir une familiarité avec l'histoire d'Israël à l'époque de Jésus, avec la culture, la pensée religieuse et ces différentes choses. Et je vais parler de pourquoi sous peu. Ceci va vous permettre d'avoir une défense pratique de votre foi, d'avoir des réponses concrètes à fournir lorsqu'on va parler de ces sujets. J'ai fait le constat ces dernières années que lorsqu'on lit dans la presse ou les documents populaires ou on entend les interviews à la radio, des déclarations sur le Jésus historique, surtout pour remettre en question les évangiles, il y a beaucoup d'infox. D'accord ? Vous savez, il y a l'info, c'est des informations, et l'infox, c'est les fausses informations qui sont données. Et souvent, une des approches qui est utilisée pour déstabiliser notre foi en Jésus, d'accord, c'est de dire, bon, on a cette idée reçue au sujet de Jésus, mais quand on regarde dans la Bible, on trouve autre chose. Et vu que cette idée que vous avez est fausse, bon, tout le reste est faux aussi. Et il y a une espèce de jeu qui se fait là. Mais souvent, ces choses sont basées sur des fausses idées. Je lisais dans le Monde des religions, d'accord, qui est un hors-série, mais un magazine qui parle donc de différents sujets historiques et religieux, qui est souvent très intéressant. Mais il y avait cette description donc de la composition des évangiles, donc par Marc, Matthieu et Luc en particulier. Et une des thèses de l'auteur, c'était qu'il y a un développement littéraire qui se fait avec la composition des évangiles et que les auteurs sont en train d'ajouter ou d'innover, non vraiment en fonction de ce que Jésus a vraiment fait, mais des besoins de l'Église. Il dit ceci, la catastrophe de l'an 70, avec la prise de Jérusalem et l'incendie du Temple par les légionnaires de Titus, n'a en effet laissé aucune trace dans le premier évangile, donc Marc. Hein. En revanche, Matthieu prête à Jésus cette prédication devant le Temple. En vérité, je vous le déclare, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, tout sera détruit. C'est quoi l'idée ? Bon, on pense que tous les évangiles sont des sources vraiment historiques, oculaires et tout, mais qu'est-ce qu'on fait ? On regarde Marc, il ne parle pas de la destruction de Jérusalem. On regarde Matthieu, même discours, tout d'un coup, on parle de la destruction de Jérusalem. Bon, moi, j'ai lu ça, et il y a quelque chose qui m'a fait tilt. Et c'est, ah, mais j'ai prêché sur ce passage dans Marc. D'accord ? Et qu'est-ce que nous lisons dans Marc chapitre 13, des versets 1 et 2 ? Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction !» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pierre, pas pierre sur pierre, qui ne soit renversée. » Ah tiens oui. On dit, bon, c'est Matthieu qui a ajouté cela au texte. Non, c'est dans Marc. Marc a, même l'évangile de Marc a un chapitre entier dédié à la question de la destruction de Jérusalem. Mais on lit ce magazine, et je tiens à signaler, l'auteur n'est même pas forcément en train de nous induire en erreur. Okay. Peut-être qu'il a écrit 5 paragraphes, l'éditeur a dit, bon, on va compresser ça en une phrase, et c'est planté. D'accord. Peut-être que les auteurs, vous savez, les enseignants ont fait des erreurs, peut-être qu'il s'est trompé sur quelque chose, il a mal écrit, ou peut-être qu'il y avait l'intention d'induire en erreur, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on prend ça et on lit sans connaissance des évangiles, qu'est-ce qu'on va dire ? Ah bon, bon Matthieu, il se permet de mettre des paroles dans la bouche de Jésus. D'accord. Et on passe à autre chose. On connaît les Écritures, on dit, ah ben, il y a une erreur ici, je vais faire attention à ces conclusions qui disent les auteurs sont en train d'inventer des paroles de Jésus. Ah, cela ne correspond pas à la réalité. Dans les cahiers sciences des vies, ça c'est un peu plus vieux, mais août 2012, j'avais lu ça pendant que j'étais à l'armée après être rentré des États-Unis. On lit ceci, selon les évangiles, la durée de son ministère varie de quelques mois pour les synoptiques, ça c'est Matthieu, Marc et Luc, à plus de 2 ans pour les écrits de Jean. De nouveau, une discussion sur l'historicité des Écritures. On dit, bon, on lit Matthieu, Marc et Luc, Jésus a un ministère de quelques mois, puis il est à Jérusalem. On lit Jean, c'est 2 ans, voire 3 ans. Problème, vous lisez les synoptiques, qu'est-ce que vous voyez ? Après déjà des mois et des mois de ministère, d'accord, Jésus fait la multiplication des pains, et c'est à quelle période ? Bon, la Pâque était proche, n'est-ce pas ? Et ensuite, son ministère continue et continue, continue, et nous le retrouvons une année plus tard, à Jérusalem pour la Pâque. Or, avant la multiplication des pains, il y a quoi ? Il y a l'appel des disciples, leur formation, l'envoi des disciples pour prêcher, non pas une fois, mais 2 fois. Avant cela, nous avons le ministère de Jésus en même temps que Jean-Baptiste, d'accord ? Et nous avons donc des mois et des mois avant. On présente la réalité, les synoptiques disent une chose sur la durée et Jean dit une autre chose. On lit la Bible, on connaît ce que disent les Écritures, on dit mais c'est pas vrai. Et c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Et c'est pas toujours mesquin, d'accord? C'est pas toujours mal intentionné, mais c'est juste parfois des erreurs ou de l'ignorance de la part des auteurs, mais avec des idées fausses sur les évangiles qui sont censées nous montrer qu'on peut pas s'y fier historiquement. Mais si on connaît les Écritures, nous voyons que c'est pas le cas. Et je suis convaincu que dans vos conversations avec les amis, ils vous diront aussi des choses. Ah, la Bible nous dit ceci au sujet de Jésus, ou nous dit ceci ou cela. Et vous pouvez dire, mais attention, quand on lit, voici ce que nous voyons vraiment. Ça, c'est pas un point d'argument spécifique, mais une connaissance générale qui changera quelque chose. Je crois que Paul parle dans ce sens un peu, quand même dans Colossiens 2, versets 6 à 8, où il dit « Ainsi comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. » Bon, quelle est la réponse aux faux enseignements au sujet de Jésus ? D'être enraciné dans la parole qu'ils ont reçue, c'est-à-dire l'enseignement apostolique au sujet de Jésus-Christ, qui est le même témoignage que nous retrouvons donc dans les évangiles, le Nouveau Testament. Comment résister à ces fausses idées ? Bon, connaissez le message que vous avez reçu dès le commencement. Et donc, ça c'est plus une prédication qu'une étude ici, mais l'exhortation pour nous, c'est de nous plonger et de relire et de lire les évangiles. Cela nous permettra de mieux connaître Jésus, de mieux le suivre, d'être remis en question personnellement, mais vous savez, cela aussi affermit notre foi face aux attaques contre elle, et cela nous permet aussi de partager le message de Jésus avec d'autres. Et ça, c'est fondamental. Donc la connaissance des évangiles, c'est basique, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut lire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il n'y a pas besoin de faire des études avancées. Et cela va quand même vous aider énormément face à cette question du Jésus historique. Parce que beaucoup des arguments sont basés sur des erreurs ou des choses mal comprises au sujet des évangiles. Et ça, c'est la réalité. Je ne suis pas en train d'inventer cela. La connaissance du monde des évangiles peut nous aider, et je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais quand même le souligner, peut aussi nous aider. Parce qu'une autre approche, c'est parfois de dire, bon, il y a ces événements qui se passent dans les évangiles, et ça ne colle pas, on ne comprend pas pourquoi ça le fait. Explication, ce n'est pas historique, c'est les évangélistes qui l'ont inventé. Je vous donne un exemple très, très concret qu'on entend. Dans les évangiles, nous voyons Jésus qui publiquement, en tout cas pendant son ministère en Galilée, ne dit jamais être le Messie publiquement, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce qu'il fait en privé ? Bon, il dit « je suis le Messie, je suis le Messie ». N'est-ce pas bizarre que celui qui vient pour être le Messie ne se proclame pas comme Messie ? Explication, sans tenir compte du contexte historique. Bon, Jésus n'a pas prétendu être le Messie ou le Fils de Dieu. Après la mort de Jésus, les disciples ont la conviction que Jésus est vraiment le Messie. Peut-être ils ont eu une vision, peut-être que Jésus est vraiment ressuscité, quoi qu'il arrive. Maintenant, ils ont cette conviction. Comment est-ce qu'ils vont transmettre cela ? Donc ils disent, oui, c'est vrai, publiquement, Jésus n'a jamais dit qu'il était le Messie. Mais vous savez, en privé, il m'a dit qu'il était le Messie. Et ça, c'est ce qui est arrivé pour être dans les Écritures. Ça, c'est une explication très commune et très acceptée pour ce phénomène de Jésus qui, publiquement, est prophète, est guérisseur, annonciateur du royaume, mais qui, en privé, est en train de former ses disciples. Lisez, par exemple, Marc, chapitre 8, versets 29 et 30. Jésus qui demande à ses disciples, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répondit, « Tu es le Christ. » Réponse de Jésus, « Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne ce qui le concernait. Okay. » On dit, « Waouh, c'est bizarre, n'est-ce pas ? Moi, je pensais que Jésus est venu pour être le Messie promis. Okay. Et maintenant, il est en train de dire, ne le faites pas. » D'accord. Et on peut aller dans beaucoup de difficultés avec ça. Notre problème, en lisant ça, c'est parce qu'on ne connaît pas la pensée et le monde juif du premier siècle. Parce que si on commence à faire un peu de lecture, et ce n'est pas des informations cachées, on le trouve dans les livres d'histoire et d'autres, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'époque de Jésus, c'était une époque de mouvement messianique. Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela ne veut pas dire que c'est un moment où il y a beaucoup de gourous religieux qui se promènent, d'accord ? Beaucoup de penseurs spirituels. Ça signifie qu'il y avait beaucoup de révolutions et d'émeutes sanglantes. Okay ? Ça, c'est le sens de mouvement messianique. Et on a recensé des douzaines et des douzaines de leaders politico-religieux qui sont venus en disant, venez, je suis l'élu de Dieu, je suis le Messie, suivez-moi, et on va faire la guerre aux Romains, on va les tuer, et on va établir une théocratie nationale, d'accord, pour accomplir les promesses de l'Ancien Testament. On a des écrits de la part des Esséniens qui parlent de cela, c'était une secte juive qui vivait dans le désert, de la part des pharisiens, qui sont à l'autre extrême, c'était un groupe religieux juif qui était au milieu du peuple qui enseignait. On a cette pensée de la part des zélotes et d'autres écrits, on ne sait pas exactement qui est derrière cette pensée, mais c'était une pensée répandue, le Messie vient pour faire la guerre. Le Messie vient pour faire la guerre. Fait curieux, vous savez ce que Pierre et un autre, on ne sait pas qui c'est, ont à la table du Seigneur, lors du repas du Seigneur ? Ce qu'ils portent sous leur manteau ? Une épée, d'accord ? Pourquoi est-ce qu'ils ont amené des armes de guerre au repas du Seigneur ? Parce qu'ils pensent qu'il va y avoir une révolution sanglante et violente dirigée par Jésus, même après tout ce que Jésus a fait. Pour les gens du temps de Jésus, dire « je suis le Messie » veut dire « je suis chef de guerre ». Et le royaume des cieux est arrivé veut dire « c'est le moment de tuer les Romains » et aussi les collabos, okay, et aussi les gouverneurs juifs qui sont en train de travailler avec eux. Jésus ne veut pas causer un bain de sang, vous savez. Son but, c'est d'amener le vrai message du royaume à Israël. Et comment est-ce qu'il va faire cela ? Il va passer 3 ans à préparer les foules, par les paraboles, par les miracles, par les prédications, comme le serment sur la montagne, et 3 ans à préparer ses disciples à accepter une autre version du royaume et une autre version du Messie. Parce que je suis convaincu, si Jésus était venu en disant « Je suis le Messie » et fait des miracles, qu'est-ce qui se serait passé ? Bon, on l'aurait couronné roi et on aurait commencé une guerre. Et cela n'est pas le plan de Jésus. Un, il ne veut pas être tué par les Romains avant l'heure. Il parle vraiment, il faut qu'il meure à Jérusalem à la Pâque. Et deux, il ne veut pas un bain de sang parmi la foule d'Israël. Il veut le prévenir. Donc, que fait Jésus ? Il prêche publiquement comment se préparer pour le royaume. Et si on relie la prédication de Jésus, c'est une prédication de préparation du royaume et de changement de pensée au sujet du royaume. Et en privé, il est en train de préparer les disciples. Il arrive à Jérusalem et là, il se proclame publiquement Messie. Okay, vous voyez ça? Si on connaît le contexte, c'est normal. Jésus n'aurait pas pu faire autrement. C'était impossible pour Jésus d'accomplir le plan de Dieu en disant publiquement « Je suis le Messie ». Impossible. Okay. Mais de le faire comme il l'a fait, cela correspond tout à fait au contexte. Mais si on ne sait pas ce que pensaient les Juifs du 1er siècle, on dira « Ah ouais, effectivement, il y a un truc bizarre qui se passe là. Peut-être qu'ils sont en train de cacher la réalité. » Un peu comme si François, par malheur, décédait cet après-midi. Et dimanche prochain, je me lève devant vous et je dis « Vous savez, en privé, François m'a dit qu'il était Jésus. Okay. » Je sais qu'il ne vous a pas dit publiquement, mais on dirait « Non, je ne crois pas que c'est vrai. Je crois que tu es en train de profiter d'une situation. » Okay. Bon, ce n'est pas ce qui se passe avec les évangiles. Il y a des bases historiques très cohérentes pour comprendre cette difficulté, entre guillemets, dans les évangiles. J'aimerais juste partager avec vous, en profitant de cela, trois ouvrages en français qui sont disponibles. Un qui est justement par Tom Wright, donc N.T. Wright, qui s'appelle « Jésus, retour aux sources », qui est une présentation populaire de Jésus historique des évangiles. D'accord ? Et il va parler des questions historiques, surtout dans la deuxième moitié du livre, mais aussi du portrait de Jésus qu'on trouve dans les évangiles, comment ça marche. C'est très intéressant. Maintenant, il est 2 euros si vous l'achetez sur Excelsis, mais j'ai aussi dans la bibliothèque de l'Église. Un peu plus poussé, « Histoire du Nouveau Testament et de son siècle ». Là, c'est de la bibliothèque de l'Église à Lausanne, mais si vous voulez l'emprunter, vous pouvez me voir. Ça se trouve aussi et toujours en édition dans les librairies chrétiennes. Et puis aussi donc de la bibliothèque de Genève, de notre église, donc le milieu du Nouveau Testament d'Edward Laws. Peut-être le plus technique, le plus complet aussi. Mais c'est des livres, si vous les lisez, c'est peut-être à part Jésus, retour aux sources, c'est un peu des pavés. Mais vous prenez votre temps pour les lire. D'un point de vue historique et culturel, cela va vous apporter énormément. Ou vous pouvez même faire la classe en ligne que j'enseigne sur le monde des évangiles. Ça, c'est tout des possibilités différentes. Mais faites ces choses en vous équipant dans la connaissance des Écritures, dans la connaissance du monde des Écritures. Cela va changer votre capacité à parler de Jésus sur une question fondamentale. Si on ne peut pas se fier au Nouveau Testament, au témoignage des Écritures, alors notre foi, c'est juste une préférence. D'accord ? Il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune base derrière. Et nous devons être capables de parler de ces choses. Bon, ça, c'était la partie la plus longue. Okay, les 4 points qui restent seront un peu plus courtes. J'aimerais parler deuxièmement des prétentions historiques du Nouveau Testament. Une idée reçue qu'on va parfois rencontrer, c'est celle que les évangiles, que le Nouveau Testament ne prétend jamais être une histoire historique. Mais plutôt, c'est vraiment des histoires théologiques ou religieuses ou spirituelles qui sont censées parler à notre cœur et notre relation avec Dieu. Mais les questions, est-ce que ça s'est vraiment passé ou pas passé? Ce n'est pas important. Dans le monde Histoire et Civilisation, donc c'est de nouveau un de ces magazines populaires, sur les religions, c'était un sur les religions et Dieu, nous lisons ceci dans un article sur l'historicité des évangiles. Dans toute la Bible, les événements sont relatés comme une expérience de foi, ce qui interdit à l'historien de poser la question du vrai et du faux selon ses critères habituels. Bon, l'auteur, pour être juste envers l'auteur, va aller par la suite et dire il y a quand même des trucs historiques qu'on peut trouver dans les évangiles, etc. Donc, essayez d'avoir cette attitude conciliante. Mais le point de départ, c'est quoi? La Bible, c'est des histoires de foi. Ce n'est pas des histoires historiques. Le problème avec cela, c'est quand on lit le Nouveau Testament, qu'est-ce que nous découvrons? Non pas des prétentions purement spirituelles, même s'il y en a, mais des prétentions historiques. Jean 21, verset 24, qui dit ceci. C'est ce disciple, le disciple que Jésus aimait, qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il n'est pas en train de dire, c'est une histoire de foi, d'accord, qui nous enseigne une réalité spirituelle. Il dit, je l'ai vu, je suis témoin et mon témoignage est vrai. Dans le prologue de l'évangile selon Luc, nous avons dans Luc 1, versets 1 à 4, ceci, plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Il m'a semblé bon, à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Que fait Luc? Si c'est bien Luc qui l'a écrit, je crois que c'est le cas, mais il dit, nous avons des récits, mais nous avons une vérification historique derrière. Et tu peux reconnaître la vérité et la réalité des choses que tu as lues. Et les historiens ont comparé le prologue de Luc avec le prologue des différents auteurs et des historiens grecs qui n'écrivaient non pas des légendes et des mythes, mais qui écrivaient des ouvrages d'histoire. Et c'est la même chose, la même structure, la même présentation. Je suis allé voir les sources, j'ai parlé avec les témoins pour avoir quelque chose de certain. C'est une prétention historique. Pour revenir à Jean, dans 1 Jean 1, versets 1 et 3, nous lisons ceci. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. » Au verset 3, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. » Là, Jean reprend ce qu'il disait dans, ou dira dans, dans l'Évangile, c'est-à-dire « Ce sont des choses que j'ai vues, que j'ai entendues, que j'ai touchées, et je donne un témoignage véridique et fiable à propos de ces choses. » C'est le témoin comme dans un tribunal. D'accord ? On appelle des témoins qui jurent qu'ils vont dire la vérité et ce qu'ils vont témoigner correspond à la réalité. Et sans cesse, dans le Nouveau Testament, bon, dans l'Ancien aussi, hein, c'est vrai, mais nous trouvons des éponymes, c'est-à-dire de noms de personnes importantes par qui on datait les époques. Nous trouvons des lieux connus, des responsables connus, des autorités religieuses connues, et ce sont des moments et des lieux et des personnes historiques et vérifiables qui sont données. Bon, N.T. Wright, donc, il dira ceci dans son livre « Jésus retour aux sources ». Le fait que les auteurs des évangiles, il va dire à l'exception de celui de Thomas, on en parlera plus tard, ancrent si profondément leur récit dans les écritures juives, signifie que leurs propos étaient nettement et clairement de parler d'événements réels qui s'étaient produits dans la réalité. Parce que dans la pensée religieuse juive, ce n'est pas comme les Grecs, d'accord ? On construit notre pensée sur les mythes ou sur les idées religieuses. Mais pour les Juifs, c'était ce que Dieu a fait dans l'histoire. Et les auteurs du Nouveau Testament, qui ont une pensée juive au sujet de Dieu, font la même chose. Bon, cela ne veut pas dire qu'il faut l'accepter sur parole. D'accord ? Si quelqu'un me dit que ce n'est pas historique, je dis oui, mais il dit que c'est historique. Okay. Ça ce n'est pas un argument en soi. D'accord ? Vous savez, les musulmans, ils disent que ce que le Coran dit sur Jésus est historique. Et moi, je ne suis pas d'accord, même si le Coran prétend que c'est la réalité. Mais au moins, ce que nous devons reconnaître, c'est que la Bible ne se présente pas comme une collection d'idées spirituelles ou d'histoires de foi qui ne prétendent pas avoir de valeur historique. Okay. Il y a une prise de position dans les évangiles qui disent « Nous parlons de la réalité réelle de l'histoire. » Donc, soit nous les rejetons comme menteurs, soit nous les acceptons comme la vérité, mais on ne peut pas vraiment jouer à ce jeu en disant « Bon, c'est des histoires de foi, l'intention, ce n'est pas d'être pris littéralement. Okay. » Le but des évangiles, vous l'avez vu, c'est d'être pris à la lettre. D'accord ? Est-ce que nous avons raison de le faire ? Donc, troisième point, une des choses que nous pouvons remarquer, c'est la proximité historique entre les événements décrits dans les évangiles et la composition de ces récits. On estime, hein, plus ou moins, que Jésus a été crucifié donc en l'an 30, certains disent l'an 33. La question, c'est est-ce qu'il faut attendre un siècle, deux siècles, trois siècles pour que les écrits au sujet de sa vie soient mis sur papier et transmis, ou sur papyrus, en l'occurrence. Un peu comme c'était le cas avec Alexandre le Grand. Bon, la réalité, c'est que on pense que Marc a été écrit. Bon, certains pensent qu'il a été écrit entre l'an 65 ou plus tard en l'an 70. Moi, personnellement, je pense que c'est plus tôt. Mais vous allez à l'université de Genève, vous allez n'importe où, dans quel milieu, croyant ou incroyant. Marc, milieu des années 60, peut-être tout début des années 70. Okay. Après, Matthieu et Luc, on dit, bon, c'est les années 70 ou les années 80. Jean, c'est les années 80 ou les années 90. D'accord. Ça nous donne quoi ? Une fenêtre de 35 à 40 ans entre les événements et leur mise sur avec l'encre et le papyrus, d'accord ? L'encre et le papier. C'est pas beaucoup de temps, vous savez. Si je me lève pour la classe et je vous dis, vous vous souvenez de la fois que notre défunt frère Doyle a fait un défilé, c'était en 1985, un défilé en centre-ville de Genève. Et des centaines de personnes ont accouru pour l'acclamer maire de Genève. Et les enfants criaient et chantaient. Okay. Il y avait des gens qui avaient des déguisements qui jetaient donc des confettis partout. Et c'était un si grand problème que tout le transport public de la ville a été bloqué. Et les chefs de la ville, le maire est venu avec le conseil communal donc, de Genève pour dire à Doyle, mais arrête. Et Doyle a répondu, si moi je m'arrête, la cathédrale criera. Okay. Et personne n'a pu. Et pendant une semaine, Doyle a dit, je suis le maire et tout le monde est venu l'écouter. N'est-ce pas extraordinaire ? Quel serait le problème avec ce témoignage ? C'est faux. Mais comment vous savez que c'est faux ? C'était il y a 35 ans. Tu y étais. Ah ! Oh, mince. Est-ce qu'il y avait d'autres qui étaient là ? Ouais. Qui était là il y a 35 ans ? Vous connaissez Doyle. On a un témoin oculaire, deux témoins oculaires, trois témoins oculaires, quatre, cinq, six. Ah, c'est pas mal. Okay. Imaginons que personne ici était là. Est-ce qu'on peut peut-être parler au maire de l'époque ou regarder les archives de la ville ? ou peut-être demander à quelqu'un qui habitait la ville à cette époque pour voir si c'était le cas. Oui, je crois que oui, n'est-ce pas? Si nous acceptons la date la plus reculée possible, d'accord, on dit 35 ans après, c'est là où on commence à parler de Jésus comme celui qui fait des miracles, qui se proclame comme Messie et toutes ces choses. Et on n'a pas besoin d'aller à 35 ans. Bon, on tombe sur quoi? On tombe sur des gens qui disent « mais c'est n'importe quoi, j'étais là, ça ne s'est pas passé comme ça ». Je cite Timothy Keller, donc dans La raison pour Dieu. Et il parle de la transmission orale d'enseignement. Pour que le compte-rendu grandement modifié et romancé d'un événement puisse s'inscrire dans l'imaginaire collectif, il faut que les témoins oculaires, ainsi que leurs enfants et petits-enfants, soient morts depuis longtemps. Okay? Ça, ce n'est pas son opinion, c'est les études sur l'histoire orale, comment ça marche. On ne passe pas de l'histoire à la légende en moins d'une génération. N.T. Wright, donc chrétien tout simplement, dit ceci. Les évangiles comportent des sources sur lesquelles ils se basent. Donc il dit 65, ce n'est pas la première fois qu'on voit le texte écrit. D'accord? Sources tant orales qu'écrites qui remontent beaucoup plus haut, sources remontant au temps où non seulement la plupart des disciples étaient encore vivants et actifs dans le mouvement chrétien des débuts, mais où des foules d'autres gens, des témoins de rencontres, des opposants, des officiels, circulaient encore, conscients du développement du nouveau mouvement et prêts à défier ou à contrecarrer les récits qui gagnaient en crédit. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et il dit, le Nouveau Testament, les évangiles, d'accord, ils sont basés sur les sources. L'enseignement des apôtres, ça c'est une des sources. D'autres sources écrites, bon, on sait que Luc dit, il y a d'autres personnes qui ont écrit au sujet de Jésus. Des témoignages très anciens au sujet de Jésus. Ces témoignages circulaient à l'époque où tout le monde avait vu ce qui s'était passé. Et vous savez, le christianisme du Nouveau Testament s'est développé à Jérusalem, dans l'épicentre. Okay, il ne s'est pas développé à Rome, il ne s'est pas développé à Éphèse, à Jérusalem même. Au milieu des gens qui étaient témoins de Jésus pendant sa vie, qui étaient opposants de Jésus. Nous avons donc des chefs du peuple, des gouverneurs, des souverains sacrificateurs qui sont nommés de nom. Et on a les proclamations de Jésus à leur sujet. Si c'était faux, ces histoires n'auraient jamais pu décoller. Ce n'est pas possible. Et s'ils avaient réussi à décoller, nous aurions trace des objections, non seulement des sectes chrétiens dans un sens ou dans l'autre, du deuxième siècle et autres, mais des gens du premier siècle qui disent « mais ça n'a rien à voir, il y a cette secte de fous qui sont en train de parler d'événements historiques qui n'ont jamais eu lieu, on sait, on était là ». Aucune trace de cela dans l'histoire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme ça que les histoires se racontent. Tout comme moi, je ne peux pas me mettre debout et vous dire « il y a 35 ans, Doyle a fait ceci ou cela » parce que vous étiez là. Bon, ce n'était pas différent, les gens n'étaient pas stupides juste parce qu'ils vivaient 2000 ans avant nous. Ils étaient capables de dire « j'étais là, ça ne s'est pas passé comme ça ». Je reviens à cette question donc, du public privé. Hein, on dit « Jésus a seulement dit qu'il était le Messie en privé », sauf la dernière semaine de sa vie, n'est-ce pas? Justement, la semaine où il savait, c'est le moment d'être arrêté et exécuté, il l'a fait publiquement. Si les évangiles voulaient juste avoir un Jésus-Messie caché, ils n'auraient pas dit « et la dernière semaine, tout le monde à Jérusalem, des dizaines de milliers de personnes l'ont vu le dire ». Et vous savez, ce souverain sacrificateur qu'on peut nommer et qu'on connaît, et dont on connaît la famille, il était là, il a entendu dire, et les autres aussi. Pourtant, c'est l'appel à témoins que nous trouvons. Okay. Il n'y a pas assez de temps. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 6, « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il a été vu par Cephas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. » Appel à témoins. Il dit « ne me croyez pas sur parole ». Mais chose intéressante, qu'est-ce que Paul dit aussi? « Je vous transmets ce que j'ai reçu ». Bon, il parle de quoi? Bon, il parle de l'enseignement qu'il a reçu. Quel enseignement, Justin? Bon, c'est l'enseignement qu'il a reçu au sujet de Jésus après sa conversion. Bon, quand est-ce qu'il a été converti? 2 ou 3 ans après la mort de Jésus. Donc, si on va être extrême, une fois de plus, et on va aller le plus loin possible de Jésus, nous avons, 5 ans après la mort et la résurrection de Jésus, Paul qui reçoit cet enseignement, et de nouveau, là, je suis généreux, on peut être à 2 ans, si on veut. Ce témoignage existe depuis le début. Et il existe du vivant des adversaires de Jésus, des témoins oculaires. Si on va transformer le message de Jésus en si peu de temps, c'est un miracle. Et on croit au miracle. Bon, super, maintenant vos adversaires sont des supernaturalistes. Ils croient en l'impossible, comme nous. Hein, nous croyons que Dieu a ressuscité quelqu'un d'entre les morts. Il faut souligner cela. Il n'y a pas assez de temps pour le développement d'une mythologie Jésus, tout simplement. Et ça, c'est une question historique, ce n'est pas une question de foi. Bon, 4e point. On entendra parfois l'idée qu'il y a des chrétientés, qu'il y avait en fait tout plein d'évangiles, des évangiles qu'on appelle aujourd'hui apocryphes ou cachés, qui sont donc des sources alternatives et fiables à Jésus, et que ces choses ont été écartées par les chrétiens. Mais que si on prend toutes les sources, tous les évangiles qui existaient au sujet de Jésus, on les compare, bon, on verra une autre image de Jésus. On pourrait passer une semaine ou deux sur ce sujet, mais juste pour vous dire, qu'est-ce qu'on peut répondre au sujet de ces évangiles apocryphes? Bon, en tout cas, trois choses. Premièrement, ils sont tardifs. Okay. Nous n'en avons aucun qu'on peut raisonnablement dater du 1er siècle. C'est-à-dire de l'an 30 ou 33 jusqu'en l'an 99. Il n'y en a pas qu'on peut, d'un point de vue fiable, dire ouais, ça date du 1er siècle. Tous les quatre évangiles qu'on a dans le Nouveau Testament sont datables par tous au 1er siècle. Okay. Sauf peut-être quelques extrémistes dans un sens ou dans l'autre. Ils ne sont pas fiables historiquement. La plupart de ces évangiles apocryphes, pardon, ne contiennent pas d'événements de la vie de Jésus. C'est juste des enseignements qui confirment l'enseignement de ces groupes, souvent des gnostiques. Mais ils n'ont pas d'informations historiques. Dans la mesure qu'ils ont des informations historiques, elles sont erronées. Okay, ou elles font preuve d'ignorance au sujet de la culture juive, de l'histoire juive au 1er siècle, et plutôt reflètent une mentalité, une compréhension grecque du monde et de ces choses. Elles sont dérivées du Nouveau Testament. Nous retrouvons des citations et des mentions d'autres écrits du Nouveau Testament dedans. Et qui dit citation dit que ça vient après, n'est-ce pas? Une des raisons, on pense que Matthieu et Luc sont basés sur Marc, c'est parce qu'ils citent Marc dedans. Bon, nous avons des évangiles apocryphes qui citent la moitié du Nouveau Testament. Donc, on ne va pas nous dire ensuite que ce sont des témoins oculaires qui remontent à l'époque de Jésus. Vous voyez l'idée? Ce sont des choses retirées et secondaires. Et peut-être l'argument qui a le plus de poids, c'est la pensée qui est derrière la composition. N.T. Wright dit ceci. Hein. Ainsi, les évangiles racontent-ils des histoires fondamentalement juives à propos de Jésus, qu'ils présentent comme le Messie juif, celui en qui et à travers qui l'histoire d'Israël était enfin parvenue à son accomplissement. Okay. Les évangiles sont juifs. Vous savez, ils citent l'Ancien Testament à gogo. Ils ont une vision de Dieu qui est juive. On attend les accomplissements des promesses de Dieu pour Israël. Vous le lisez, et vous pouvez le faire, hein. Il y a des éditions, même l'Université de Lausanne a publié tous les apocryphes que nous connaissons. Ils sont très chers, mais on peut les emprunter gratuitement à l'université. Aucun d'entre eux n'a une vision du monde juif. Aucun d'eux ne voit le monde d'un point de vue juif, ou de l'Ancien Testament, ou de l'accomplissement des promesses de Dieu. Même la plupart sont antisémites et anti-Dieu de l'Ancien Testament. Ma question pour vous, même si on fait abstraction de tous les autres arguments, est-ce que vous pensez que Jésus était un antisémite qui détestait l'Ancien Testament? Bon, ça c'est le Jésus des apocryphes, d'accord? Ou tout au moins qui ne connaît rien de l'Ancien Testament et qui s'en fiche des Écritures, en fait, comme on l'appelait, même dans le Nouveau Testament. Notre Nouveau Testament est rempli d'amour pour les Écritures de l'Ancien Testament et d'espérance basée sur l'accomplissement de ça. Une vision du monde formée par le Dieu d'Israël. Et rien de ça ne se trouve dans les apocryphes. Et on veut nous faire penser que ce sont des sources historiques d'une même valeur que le Nouveau Testament. C'est un non-sens. D'accord. Le seul qui a un peu de poids, c'est l'évangile de Thomas, comme on entend parler souvent. Mais beaucoup d'études ont été faites sur ce texte, surtout les deux dernières décennies. Et une des conclusions que Wright partage, c'est ceci. Les traditions syriaques, renfermées par Thomas, peuvent être datées de manière très fiable, non pas du 1er siècle, c'est-à-dire des contemporains de Jésus, mais de la seconde moitié du 2e siècle. C'est-à-dire plus de 100 ans après l'époque de Jésus. Thomas, on l'a en copte, qui est un dialecte égyptien, et puis on l'a en grec, mais on l'a pas en syriaque. Mais ceux qui l'ont traduit, disons qu'ils l'ont détraduit pour le remettre en araméen, qui est donc syriaque, c'est une forme d'araméen, ils ont dit « Ah mince, ça ressemble exactement au texte liturgique des Syriens, chrétiens du 2e siècle. Ah, quel hasard, n'est-ce pas ?» Et de nouveau, toutes ces autres choses, hein, cette séparation de la pensée juive, de l'Ancien Testament. Donc même Thomas, que certains vous trouverez en Suisse, en tout cas certains qui disent « Ouais, Thomas, ça remonte à l'an 50 ». Si on commence à regarder les données historiques derrière, on voit qu'il n'y a pas d'argument de poids. C'est une préférence. On aimerait bien que Thomas date de l'année 50. Comme ça, on peut remettre en question les évangiles et on le fait. Nous trouvons tellement de références aux cultures, aux traditions et aux écrits des chrétiens de la fin du 2e siècle dans cet ouvrage que c'est vraiment impossible de faire le lien historique avec Israël du 1er siècle. C'est un peu technique, il y a des livres entiers écrits sur ce sujet, je peux vous les recommander si vous voulez, mais sachez-le, il ne faut pas être ébranlé par ces évangiles alternatifs. Quand on commence à creuser, c'est assez frappant ce qui manque. Finalement, et ça c'est important pour mon dernier point, c'est que parfois on a l'idée, vous savez, la Bible nous parle, les évangiles nous parlent d'un Jésus, d'accord, le Jésus des évangiles, le Jésus de la foi. Mais le Jésus que les historiens ont trouvé est tout autre. D'accord. Si on commence à creuser, on trouve qu'il n'y a pas de Jésus historique, entre guillemets, différent des évangiles. Que ce Jésus n'a jamais été découvert. Il n'y a pas eu un siècle de recherche pondérée de la part d'historiens et de théologiens qui ont dit « on va prendre toutes les données et puis maintenant on va faire le portrait robot de Jésus qui correspond vraiment aux données de l'histoire ». Plutôt, ce que vous faites, si vous allez, vous vous promenez dans une librairie, dans une bibliothèque, vous allez sur Histoire du christianisme, Jésus. Et vous verrez Jésus pharisien, Jésus zélote, Jésus bouddhiste, je n'invente rien ici, d'accord, Jésus essénien, Jésus le néo-païen, okay, Jésus, etc., etc., Jésus le gnostique, Jésus le, bon, j'ai mentionné le pharisien, Jésus le rabbin, etc. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une centaine de portraits différents, non évangéliques, c'est-à-dire non tirés des évangiles, de Jésus. Vous savez ce qu'on ne trouve pas? Un consensus historique qui est une alternative aux évangiles. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas comme si on avait fait l'étude de Jésus, on a dit « Ah, on a un autre portrait qui a plus de poids que celui des évangiles. » Plutôt, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit « L'évangile ne peut pas être vrai parce que c'est une histoire de foi ou parce qu'on rejette le trilemme. Donc, on va trouver autre chose. » Et chaque chercheur, chaque auteur, chaque théologien trouve son propre Jésus qui est différent. Keller fait le constat, hein, et ceci, ça fait plus d'un siècle que ça dure. Le résultat de cette quête de Jésus historique s'est révélé extrêmement décevant, les spécialistes ayant eu tendance à fabriquer un Jésus qui corresponde à beaucoup de leurs propres croyances. Le fait que tant de résultats, là, il cite un autre auteur, différents et émergés de cette quête, menée à partir de la critique des formes, n'inspire pas la confiance dans les méthodes historiques utilisées. Si tout le monde part avec les mêmes données, avec la même méthode, mais ont des résultats différents, il y a un problème avec la méthode. D'accord ? C'est ça qu'il est en train de dire. Nous n'avons pas un Jésus alternatif historique, mais plutôt le Jésus que j'aimerais bien avoir existé à la place de celui des évangiles. Le seul où il y a un consensus historique, c'est pour ceux qui utilisent les évangiles comme des sources historiques fiables. Vous savez cela ? Donc, ce n'est pas comme si on avait le poids de l'histoire qui réfutait le témoignage des évangiles. Mais plutôt, on rejette le témoignage des évangiles, on est obligé de trouver quelque chose, mais personne n'arrive à être d'accord sur qui était Jésus. N'est-ce pas curieux ? N'est-ce pas curieux ? Pour conclure, et vous avez été très patient, il y a beaucoup d'autres pistes. D'accord ? On peut parler de la fiabilité historique générale du Nouveau Testament. Donc, quand on ne parle pas de Jésus, quand on parle des gouverneurs, quand on parle des villes, quand on parle des coutumes et des traditions, est-ce que c'est fiable? Et la réponse, c'est oui. Systématiquement, le Nouveau Testament est fiable. Et cela donne du poids, donc, aux choses qu'on ne peut pas vérifier par des témoignages externes. On peut parler du témoignage contre-productif des récits évangéliques. Si les évangiles ont été écrits pour justifier la doctrine de l'Église, ce qui est quand même un enseignement très commun qu'on trouve. Pourquoi est-ce qu'ils ont tellement d'enseignements contre les apôtres, hein? Je vais prêcher ce soir sur comment les apôtres sont des idiots spirituels. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas donné à Jésus des paroles où il règle le problème de la viande sacrifiée aux idoles? Où il règle le problème du rapport à la loi de Moïse, dont la circoncision, hein? S'ils sont en train d'inventer des histoires de Jésus pour répondre à leurs problèmes, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas pour toutes ces questions que nous savons ont divisé l'Église? Parce qu'ils n'inventaient pas les paroles de Jésus. On peut parler du refus des évangélistes, donc à faire dire à Jésus des choses qu'il n'a pas dites. Hein. Le sacrifice et le martyr des témoins de Jésus. Les personnes qui sont derrière le témoignage des évangiles sont morts proclamant leur message. Si c'est un message inventé, comment est-ce possible? Et finalement, nous avons aussi une douzaine de témoignages extra-bibliques, d'accord, à propos de Jésus, qui font part souvent d'incrédulité au sujet de son message, mais qui ne rejettent pas l'idée historique que Jésus prétend être le Messie, était faiseur de miracles, était adoré comme Dieu, et toutes ces choses. Nous ne manquons pas de pistes. Trois livres que je vais vous recommander après peut-être une ou deux questions. Merci pour votre patience. Populaire, écrit comme un roman, mais qui parle de sujets importants. Jésus, l'enquête. C'était un livre longtemps avant d'être un film. C'est un journaliste donc, qui nous écrit comme un roman ses rencontres avec différents experts historiques, bibliques et autres, en parlant des différentes questions sur Jésus. Les documents du Nouveau Testament, peut-on s'y fier, le plus court, mais le plus technique du groupe, et c'est donc là un expert en études des textes du Nouveau Testament, et là on a Critique textuelle, qui parle de pourquoi on fait confiance d'un point de vue historique à la Bible. Et puis Chrétien, tout simplement, qui est un livre d'apologétique, écrit par un historien du christianisme, donc N.T. Wright, celui que j'ai cité, qui la première moitié parle des raisons spirituelles pour croire, un peu comme Timothy Keller, mais qui parle aussi beaucoup de ces questions historiques, la composition des évangiles, la fiabilité historique, les critères pour cela. Tous les trois sont disponibles facilement en français. Vous pouvez les emprunter avec moi, les acheter sans problème en ligne ou en librairie. Je vous recommande d'en lire au moins un. Cela vous fera du bien dans votre foi, mais aussi pour le partage avec les autres. On va prendre une ou deux questions. À midi, j'ai promis à ma femme qu'on s'arrêterait pour la classe des enfants. Mais si vous avez des remarques ou des questions, c'est volontiers qu'on peut les faire.
Les lettres de Paul.
Oui. Voilà. Voilà. Ils ont été écrits avant les évangiles, mais ils renferment le même enseignement au sujet de Jésus. Donc, on peut vraiment revenir très tôt. Et dans les lettres de Paul, il parle de l'enseignement qu'il a reçu des années avant d'avoir écrit les lettres. Donc, de nouveau, l'écart historique est minime. Minime. On ne parle pas de siècles, on ne parle même pas de décennies. Comme un artefact historique au sujet donc, des hérésies chrétiennes, des idées qu'il a, c'est très intéressant. D'un point de vue historique, est-ce que ça renferme un témoignage du 1er siècle? La réponse est non, pour toutes ces raisons. C'est quelque chose qui est écrit très tardivement. L'Église du 2e et 3e siècle parlait de ces ouvrages, d'accord? Ils les citent, ils disent, écoutez, on commence à circuler cet évangile de Marie ou de Pierre, il faut pacifier, c'est pas vrai, ça correspond pas à ce qu'on a reçu des apôtres, mais on sait plus ou moins quand ça a été écrit. De nouveau des siècles après, pas dans des lieux ou par des personnes qui avaient une connaissance de Jésus historique, et de nouveau des écrits qui ne reflètent pas une mentalité juive. Et ça, c'est vraiment fondamental, d'accord ? On ne peut pas dire que quelque chose vient des Suisses, par exemple, si c'est écrit avec une vision du monde d'un Australien qui ne connaît rien à la Suisse, etc. Mais c'est vraiment ce phénomène qu'on trouve dans tous les apocryphes. Ouais. Oui. Les deux, nous croyons les deux, n'est-ce pas, qui l'écrivait sur le témoignage inspiré, mais qu'il a été aussi guidé par l'Esprit. Dans notre partage, je crois qu'on peut dire que nous croyons que l'Évangile est inspiré, mais ce n'est pas un argument pour les non-croyants. De dire c'est inspiré parce que c'est inspiré, c'est circulaire, n'est-ce pas? Donc, nous avons besoin de pouvoir donner des arguments autres que juste la Bible dit que c'est vrai. Mais c'est important de le souligner et de le reconnaître. Nous l'acceptons comme les Écritures. Inspiré de Dieu. Et même, je ne suis pas du tout un expert en hébreu, d'accord ? Mais un de mes professeurs, qui était donc, quelqu'un qui avait passé toute sa carrière à étudier l'Ancien Testament en grec, il dit, Luc fait quelque chose que personne d'autre ne fait chez les auteurs grecs de l'époque, c'est qu'il imite le style et les phrases et la structure de phrases de l'Ancien Testament grec. Pourquoi ? Parce qu'il pensait qu'il écrivait la Bible. Et il écrit en grec comme on écrit la Bible. Et c'est le seul qui le fait. Okay ? Donc, c'est un style qu'on ne va pas reconnaître forcément nous-mêmes, mais c'est quelque chose qu'il faisait. Il écrivait d'une manière consciente des Écritures. Il se voyait en train de continuer le témoignage de l'Ancien Testament. Donc il y a des raisons même concrètes pour dire que c'est reconnu comme inspiré par l'auteur, par l'Église et par nous.
Ouais.
Oui.
Puisqu'il a écrit 70 ans après.
On dira pour Luc de 40 à 60 ans. Je crois que c'est moins. Personnellement, mais on accepte les visions des autres pour
mais
faciliter.
Ça,
oui, il y en avait qui étaient encore en vie. Okay. Mais voilà. Mais même si Luc a écrit plus tard, de nouveau, moi je crois qu'il a écrit avant l'an 70. Il y a toutes des raisons pourquoi on le place après, mais Luc était présent en Palestine pendant l'arrestation de Paul, n'est-ce pas ? Et c'est à ce moment-là qu'il aurait recueilli les témoignages de l'époque. Aussi à Antioche à certains moments. Mais c'était donc des témoignages qu'il aurait recueillis avant la mort des apôtres. Ouais. Ok, on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, venez me voir. Merci beaucoup pour votre écoute.
Merci,
Dieu vous bénisse.
Merci.